Couture dans le Mid.
Avec Pierre Couture.
Everyone.
Et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben, crash d'avion Air Canada à New York. Là, il y a des éléments qui commencent à sortir.
Oui.
Le camion de pompiers qui a.
Qui est dans l'accident.
Qui est entré en collision avec l'avion, finalement, et a été le seul du convoi à ne pas arrêter.
Je comprends pas parce que t'entends stop, stop, oui. il nomme Truck One. Là.
Oui.
Stop, stop, stop. Il me semble que tu payes les breaks, puis.
Les autres ont arrêté.
Je comprends pas.
Ça, ça n'a pas été dit hier du point
de vue. Ils ont entendu la communication?
Ben là, on se demande.
C'est rendu, je veux dire, est-ce que, je sais pas, problème de radiofréquence, la radio était fermée, je sais pas comment ça marche.
Ou ils écoutaient pas.
Ou ils écoutaient pas.
Mais les autres camions ont arrêté. Tes ben, voix en arrière,
oui.
Là.
Oui.
Mais lui, il a pas arrêté. On est là-dedans. Voilà. Ils vont rouler jusqu'à samedi là-dessus, hein, d'après moi.
À la télé? Télé, ah ouais, oui.
Ben là, écoute, son.
Au Québec, là, les chaînes d'information continuent. Là. D'après moi, on a jusqu'à samedi.
Ben Solange s'en vient, là.
Ben oui, mais Solange, écoute, toutes nos pensées sont avec Solange, qui a réussi, qui a survécu.
Solange,
c'est hors de danger, d'ailleurs.
Oui, oui, mais elle va donner une entrevue, éventuellement.
J'imagine.
Là, comment ça s'appelle, Clément?
Oui, Clément Lelièvre.
Clément Lelièvre.
On a parlé hier, je pense, c'est à Radio-Canada, oui. RDI. Lui a témoigné de son expérience.
Crash Survivor.
Ouais, fait que là, bon, d'après moi, à la télé au Québec, on a jusqu'à samedi.
Voilà, notre chroniqueur, il est là.
Ouais.
Chronique politique avec Rodolphe Osney.
Rodolphe, comment vas-tu?
Ben écoute, je vais bien. Je reviens d'une semaine de ski. Je suis tout bronzé. Je suis en pleine forme pour parler, pour reparler politique. J'ai pas regardé le budget. J'étais en vacances.
Bon, il faisait beau. T'es quoi, les Alpes françaises? T'étais en Europe?
Oui, oui, c'est ça. Alpes françaises et suisses.
Bon, merveilleux. Donc, ce matin, ben tu reviens avec la grosse actualité. Le PCQ, là, c'est Maïté Blanchette-Vizina qui ferait le saut. On sait pas trop comment ça va être expliqué, ça, là. Hein?
Oui, bon, on attend la conférence d'Éric Duhaime. Ça devrait être d'ici une trentaine de minutes. Ça va être intéressant. Beaucoup de questions à poser. Mais déjà, je pense, faut déjà souligner, c'est une bonne nouvelle pour, bien sûr, Éric Duhaime, pour le Parti conservateur du Québec. On le sait, Éric Duhaime n'a pas de siège à l'Assemblée nationale, ne pouvait pas poser des questions, ne pouvait pas, comme ça, tous les matins, aller dans la salle de presse à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Et là, maintenant, grâce à Maïté Blanchette-Vézina, qui lui ouvre les portes de l'Assemblée nationale, il pourra rentrer avec sa carte d'accès. Ben, ça, c'est quand même un bon point, parce que ça va permettre à Éric Duhaime, pour le reste, ou la fin de la session parlementaire, jusqu'au mois de fin juin, de pouvoir, comme ça, tous les matins, s'il veut, pouvoir poser des questions et surtout avoir de la visibilité médiatique. Donc, un, ça, c'est un bon point. Deuxièmement, je trouve aussi quand même que le timing est bon, parce que si tu regardes, là, le Parti libéral du Québec, ils n'arrêtent pas de nommer des candidats. Le PQ, ils n'arrêtent pas de nommer des candidats. On est tous en mode, on se prépare pour l'élection du mois d'octobre. Ben, ça montre un certain momentum pour Éric Duhaime. On connaît les défis d'Éric Duhaime. Un, c'est de parler, mais pour les bons sujets. Puis deux, de montrer que c'est pas un one-man show,
ouais,
que c'est une équipe,
exact.
Qui a des gens autour de lui, qui se professionnalise. Faut pas l'oublier. Lui-même a dit que un des défis du Parti conservateur du Québec, c'est se professionnaliser. Il avait déjà parrainé, ou Mme Maïté Blanchette-Vézina avait déjà parrainé un projet de loi avec Éric Duhaime. Ben là, ça va permettre comme ça d'avoir une parlementaire dans le Parti conservateur du Québec. La grande question maintenant, c'est elle va se présenter où? Est-ce qu'elle va se présenter dans son comté actuel? Est-ce qu'il y a d'autres comtés qu'elle est en train de cibler? Ça va être, je pense, la grosse question aujourd'hui. Et comme ça, ça montre un certain momentum. On a beaucoup parlé de la CAQ puis des débats. Ben là, on dirait qu'on a une petite éclipse où, au moins aujourd'hui, pour les prochaines 24-48 heures, on va parler du Parti conservateur du Québec et montrer une certaine forme de momentum pour Éric Duhaime.
Oui, il y a quand même de la critique là, sur le fait que Mme Blanchette-Vézina s'est présentée sous la bannière de la CAQ et est devenue indépendante. Est-ce qu'elle aurait dû attendre la fin de son terme là, de 4 ans et de dire « je présente pour le PCQ » peut-être dans la région de Québec.
À l'automne.
Ouais. Ou déclencher ou partir. Comment tu vois ça? Parce qu'elle va se faire grêler. Là. On a grêlé les conservateurs qui ont traversé pour les libéraux du côté d'Ottawa. Elle va se faire, elle.
C'est un peu la même chose.
Oh, oui, il y a des gens qui l'attendent avec une brique et un fanal.
Oui, ça va être intéressant de voir, un, la conférence de presse. Mais deuxièmement, moi, je pense qu'il y a un élément. Elle a quand même attendu 6 mois. Là. Ça veut dire, okay. Ça a été, on peut dire qu'il y a eu du flirt pendant 6 mois. Ça n'a pas été comme, OK, là, je vais au parti. C'est pas comme le député conservateur le mercredi, il va au parti de Noël des conservateurs, le jeudi, il va au parti de Noël des libéraux. Là, on voit quand même qu'il y a eu 6 mois. Elle avait aussi, si mes souvenirs sont bons, elle avait participé au congrès du Parti conservateur. Donc, je pense que, tu sais, elle est allée, on va dire, par étapes, étapiste. Puis, on est quand même, si tu regardes les autres partis politiques, bien, les autres partis sont en train de nommer des candidats. Puis, elle aussi, elle est en train de dire, et c'est ça qu'on va voir l'annonce d'aujourd'hui, qu'elle va se présenter pour le Parti conservateur. Donc, tu vois qu'elle joint l'acte à la parole. Je pense que pour elle, c'est un peu difficile de juste faire un petit parallèle rapide avec Ottawa. Je pense qu'Ottawa, quand tu changes comme ça, puis beaucoup par opportunisme, elle, j'ai l'impression que, bon, elle a pris quand même son temps avant de prendre cette fameuse décision.
Oui, puis c'est pas comme si Éric Duhem avait 50 députés, là.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Non, puis bon, quand tu regardes quand même Éric Duhem, bon, il est quand même allé, ça fait 2 élections partielles. Le Parti conservateur du Québec a été 2e dans 2 élections partielles. Donc, quand même, je pense que Mme Maïté Blanchet-Vézina a quand même a pris son temps. Est-ce qu'elle va avoir des critiques? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens dans sa circonscription qui ne vont pas être contents? Certainement. Donc, on va voir le message, comment elle va expliquer, puis surtout son processus de réflexion. Puis, c'est quoi qui l'attire au Parti conservateur? Parce que c'est aussi ça qui est important. Est-ce que le Parti conservateur est devenu un peu plus droite, centre-droit? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis que ça va être intéressant de voir la chose. Mais pour Éric Duhem, ça va aussi être une bonne nouvelle parce que ça va être quelqu'un qui va aussi faire de la route. On sait qu'Éric Duhem, c'est un peu le seul porte-parole.
Oui,
ben là, est-ce qu'il devient un tout petit peu comme Québec solidaire avec 2 co-porte-paroles? Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment ils divisent le travail.
Oui, puis c'est une femme aussi, là. Donc le vote féminin est important aussi.
Oui, puis le vote des régions, le vote de Québec, toute cette grande région, etc., ça va être intéressant de voix, etc., vu surtout que le projet de loi qu'ils avaient parrainé, c'était un projet de loi pour la régionalisation. Donc, je pense que c'est un message aussi. Tu sais, on sait que le Parti conservateur du Québec parle beaucoup de décentraliser, etc. Donc, ce sera un message important. Puis là, maintenant, ils auront au moins une porte-parole sur un sujet crédible et fort.
Voilà. Gilles Bélanger. Strike again. Là, il est en train de défaire ce qu'il avait dit. Lui, il a dit, si Bernard Dréville est élu chef de la CAQ, moi, je m'en vais.
Exactement. Donc, le ministre Gilles Bélanger a dit ça comme ça. Il a dit, bon, si c'est Bernard Dréville, moi, je quitte. Ensuite, Mme Fréchette a tout de suite émis aussi un commentaire sur ses réseaux sociaux le demandant de se rétracter. Oui, chose qu'il l'a fait. On sait que M. Bélanger, bon, bien évidemment, est du côté de Mme Fréchette. Alors, écoute, c'est un peu une sorte de certaine forme de dynamique, là. Est-ce qu'il y en a qui sont pas contents, que ce soit l'un ou l'autre? On a vu que Mme Fréchette a quand même fait aussi, encore une fois, la semaine dernière, puis cette semaine, le plan d'appui. Il y a M. Éric Girard, le ministre des Finances, qui est de son côté. Mais oui, je pense que M. Bélanger, il aurait pu se garder une petite gêne. Il n'avait pas besoin d'aller là. Et que tout de suite, au moins, Mme Fréchette a tout de suite réagi en disant, écoute, enlève tes paroles.
Est-ce que ça lève cette course-là à la chefferie de la CAQ?
Non, parce que moi, on s'en est déjà parlé, Nick et Pierre, ça fait aucun sens d'avoir fait des débats, puis on en a eu un débat en passant, un débat le samedi matin à
10h,
ils auraient pu trouver un meilleur timing, si tu me permets l'expression. 2, pour le parti de la laïcité, de le faire dans une ancienne église, t'aurais dû voir les images.
Ben oui.
C'est drôle, hein, parce que tu te souviens que Bernard Drainville, quand il avait pleuré sur le troisième lien, moi, j'avais rigolé parce que quand tu le voyais pleurer, derrière lui, il y avait le crucifix de l'Assemblée nationale.
Ouais,
tu voyais l'image. Puis là, maintenant, tu vois l'image du débat de la CAQ. C'est encore une fois une église. Donc, tu dis, OK, pour le parti de la laïcité, puis pour le père de la Charte des valeurs, c'est un peu drôle. Mais le plus important et le plus ridicule à la fois, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces débats quand tu ne peux plus maintenant acheter une carte de membre et en fait, tu fais juste comme ça, essayer de faire lever un camp ou un autre. Je trouve que c'était une erreur d'avoir fait ça. Je pense qu'ils ont fait les débats trop tard dans la course. Mm. Puis oui, je ne pense pas que ça va faire beaucoup, beaucoup bouger l'aiguille concernant ce débat. Écoute, on va voir 2e débat cette fin de semaine dans la région de Montréal.
Voilà. Là, au fédéral, rapport de la vérificatrice générale, suivi de l'immigration. On a fait rentrer beaucoup de monde, puis on a l'air, c'est pas grave, allez-vous batifoler dans l'herbe folle, on vous donne des chèques, puis il n'y a pas de problème.
Écoute, ça fait longtemps qu'on parle d'immigration. Moi, il y a un truc que je ne comprends toujours pas au Canada. Puis écoute, je viens de voyager, là, je viens d'aller en France, je viens d'aller en Suisse. Quand je rentre dans un pays, on me tamponne. Quand je sors d'un pays, on me tamponne. On sait qui rentre et on sait qui sort.
Ouais.
Au Québec et au Canada, on a ce problème. C'est qu'on sait qui rentre, mais on ne sait jamais qui sort. Et c'est un peu ça la problématique. Donc, d'un côté, Et ça, c'est un rapport de la vérificatrice générale qui a dit, elle a vu qu'il y avait plus de 153 000 étudiants étrangers qui ont été admis, puis que ça levait des drapeaux rouges. On a vu qu'il y a seulement, de ces 153 000, il y a pas mal, il y a à peu près 4 000 cas ou 2 000 cas par année qui ont été qui étaient déjà flagués puis qui ont été seulement analysés. Ça veut dire qu'il n'y a que même pas 2,5% qui ont été vérifiés malgré le fait qu'il y avait déjà des drapeaux rouges, parce qu'on sait qu'il y a certains instituts ou certaines écoles qui sont un peu bidons et c'est un peu un outil pour pouvoir comme ça avoir un visa d'étudiant. Puis ensuite, la réalité, c'est qu'on ne sait même pas après, imaginons qu'on a annulé ces visas ou que ces visas ont expiré, on ne sait même pas si ces personnes ont quitté le territoire. Donc tu vois que c'est encore le foutoir à l'immigration. Non seulement, et ça c'est la vérificatrice générale qui le dit, non seulement on lève des drapeaux rouges, mais on ne fait pas assez de vérifications, on ne fait pas assez de suivi, puis ce chiffre qui fait mal, seulement 2,5% de fichiers ou de dossiers qui ont été, avec un drapeau rouge, ont été vérifiés.
Et là, on parlait d'étudiants étrangers, mais on pourrait l'appliquer aux demandeurs d'asile, même foutoir, là, je veux dire...
C'est... Moi, je comprends pas. Je comprends pas, et ça fait longtemps, je me dis, comment ça se fait qu'on ne sait même pas qui est encore sur le territoire, qui a vraiment quitté le territoire, est-ce que... et tout ça, je ne comprends pas. Comme je te dis, je me répète, mais... Je suis parti en France, je suis sorti de la France. J'avais un tampon en me disant les gens ils savaient que j'étais parti puis que j'étais pas resté plus que 6 mois, par exemple.
Non, c'est un beau bordel, ça. Il y a du ménage à faire là, à l'immigration du côté d'Ottawa. Mais on va voir. Hein? C'est les libéraux, hein? Les libéraux sont comme ça. Cour suprême, loi 21. On a commencé à entendre les partis, là, dont M. Bérard, là, de.
Ah oh là là là.
Hein? Les enseignants, oh là.
Non, mais écoute, ça n'a pas d'allure. Ça veut dire, bon, je comprends, OK, on va devant la Cour suprême. Moi, je fais partie de l'école, puis oui, je suis un conservateur, puis oui, je suis pour un État décentralisé, mais moi, je fais partie de ceux qui disent la clause dérogatoire, ça a été écrit dans la Constitution. Il n'est pas marqué le fait que hey, tu n'as que le droit de l'utiliser une fois ou deux fois ou trois fois. C'est pas écrit ça.
Ça existe.
Ça existe. C'est un outil. Ça fait partie de l'équilibre canadien qu'on a, l'équilibre entre un pouvoir fédéral, des fois, qui est trop centralisateur, et des provinces qui disent, qui ont envie de dire, des fois, au fédéral, « Hey, mets-toi de tes affaires, puis on est aussi, nous, des élus, puis on a des assemblées législatives des provinces qui sont aussi élus, puis qui ont le droit de légiférer. » Mais moi, ce qui m'a fait tomber de ma chaise hier, c'est l'argument, comme tu viens de le dire, de monsieur l'avocat Bérard, qui vient puis qui dit « Ouais, M. Trump. » Écoute, s'il y avait eu la cause, si la cause elle avait été entendue il y a 2 ans, il n'y avait pas M. Trump au pouvoir, est-ce qu'il aurait utilisé les mêmes arguments? C'est-à-dire, ça fait aucun sens qu'on débatte sur le fond, très bien, qu'on ait un débat, très bien, mais qu'on n'amène pas à chaque fois M. Trump pour justifier ou injustifier n'importe quelle décision en politique canadienne. Moi, je trouverais que son argument faisait aucun sens. J'ai hâte de voir ça va être quoi cette décision, parce que ça va avoir beaucoup d'implications, non seulement du point de vue juridique, mais également du point de vue politique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Nick et Pierre, c'est pas seulement le Québec qui est là devant la Cour suprême, il y a aussi énormément de provinces.
Il y a d'autres provinces, oui, exactement.
Ouais, c'est ça, parce que c'est tout un équilibre des pouvoirs. Il y aura comme impact, possiblement, dépendamment de la décision, qu'on est en train de réécrire une constitution qui, en passant, le Québec n'a pas accepté.
Oui, puis il y a de l'argent des enseignants là, qui donnent à leur syndicat, c'est la Fédération autonome de l'enseignement. Eux autres, sont représentés par Frédéric Bérard, notamment. Mais eux, là, je veux dire, c'est des coûts assez importants pour les membres. Là.
Oui, bien écoute, si je ne me trompe pas, il y a comme 140 avocats où j'ai lu ça quelque part, 130 avocats. Écoute, ça va être, c'est quand même 4 jours. 4 jours à la Cour suprême d'audition, c'est très, très long. Là. Juste pour nous mettre en contexte, ça veut dire à quel point c'est important. La question après, c'est ça va être rendu quand, cette fameuse décision? Puis est-ce que le tribunal va comme dire, écoute, je m'en mêle pas, ça fait partie de ce qui est écrit dans la Constitution, ou est-ce qu'ils vont essayer comme ça? Parce que on va voir aussi la position du gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier que le gouvernement fédéral est en train de dire qu'eux, ils sont contre le fait qu'on utilise de façon préventive comme ça la fameuse clause dérogatoire. Juste pour terminer là-dessus, René Lévesque a utilisé la clause dérogatoire dans tous ses projets de loi suite au rapatriement de la Constitution, puis ça n'a pas fait que ces lois sont devenues illégitimes.
Oui, parce que c'est, tu sais, Bérard, lui, il parlait de Trump. Mais tu sais, dans le fond, les politiciens, c'est eux qui peuvent invoquer la clause dérogatoire. Là. Je veux dire, c'est le politique qui fait la beauté de la chose.
Si tu n'es pas content, on change de gouvernement. C'est pour ça que cette clause doit être renouvelée tous les 5 ans. Ça fait que ça dépasse un cycle politique de 4 ans d'une assemblée législative, par exemple.
Hey, d'ailleurs, les juges, il y avait des juges de la Cour suprême là, qui posaient des questions hein, là-dessus.
Oui.
Tu n'es pas tout à fait d'accord avec la position. En tout cas, tu ne semblais pas être d'accord... nécessairement 100%. On va voir. Rodolphe, tu es salué. Bonne semaine. Puis écoute, la planète politique continue à tourner. On va avoir du stock en masse à se mettre sous la dent à la prochaine chronique.
À la semaine prochaine. Merci Pierre, merci Nick, merci
Salut.
Québec.
Salut. Bye. Voilà. Ben c'est ça. C'est la loi 21. C'est la loi sur la laïcité qui est contestée en Cour suprême.
Ouais.
Là, ben, y a des avocats qui évoquaient Trump. Parce que la clause dérogatoire, ben, c'est un politicien qui dit ben, « Moi, je suis pas d'accord. » Il dit ben, « Là, si on a des Trump qui arrivent puis qui commencent à évoquer la clause dérogatoire, on pourrait faire bien des affaires.
Ouais. »
ben, mais il allait loin. Là. C'était de la politique fiction. Encore là, je veux dire, les politiciens existent. Là. Je veux dire, c'est ça qui prend les décisions. Puis... ils ont le droit. Ça existe, cette clause.
Ben, ils l'ont inséré dans la Constitution, je dirais. Là. Puis il n'y a pas de limite. Là.
Il n'y a pas de limite. Et là, si tu joues dans la Constitution, mettons, la Cour suprême vient jouer dans la Constitution, le gouvernement pourrait changer la Constitution? C'est-tu ça là, quand, qui s'en vient?
Écoute, c'est une bonne question. On va suivre ça.
Hey, tu rembarques dans la Constitution.
Ah oui. Hein? Ben oui.
D'ailleurs, le Québec n'est toujours pas dans la Constitution canadienne.
Ils ont fait ça. La nuit des longs couteaux, Pierre.
Ouais, voilà. Bon, on ouvre les lignes.
88-670-9098 concernant le passage de Maïté Blanchette-Vézina au PCQ. Beaucoup d'arguments, là. Il y en a... Je regarde la messagerie, là.
Rodolphe n'a pas l'air il n'a pas l'air à capoter sur le fait que, bon, à cause de la CAQ, elle était devenue indépendante, ça faisait 6 mois, là.
Oui.
Donc, elle a eu le temps de se faire une tête.
Je comprends.
Puis elle a dit, bon, moi, j'ai pas entendu l'argumentaire. Elle va dire quoi? Elle va peut-être dire que, justement, elle ne se présentera pas dans Rimouski à la prochaine élection.
Possible.
Ça va être dans la région de Québec.
Oui.
Puis elle va... Je sais pas, là, qu'est-ce qu'elle va
évoquer. Mais tu sais, c'est partagé, puis je pense que l'ensemble des opinions des auditeurs sur la messagerie, les points se valent, là. Tu sais, il y en a qui disent, ben écoute, c'est pas pire que les... Il y en a plein, il y en a toujours eu, c'est pas pire que les transfuges qui existent. D'autres qui disent, ben le Parti conservateur a... aucun député, aucun. Aucun pouvoir.
Non, mais c'est pour ça que ça énerve les autres partis politiques aussi. Ouais. Regardez la gronde qui vient, là. La gronde, ça vient des autres partis politiques. Parce que là, le PCQ existe avec une députée, là. Là, ils ont droit au message.
Ah oui,
ils ont
comprends.
Droit à l'Assemblée nationale. Là, le message va passer. Puis en plus, c'est une femme.
Mais reste que le discours que moi, je tenais dans les dernières semaines quand il y avait des transfuges conservateurs fédéraux qui allaient vers les libéraux, je comprends qu'ils ont peut-être été achetés, là, mais c'était de dire, ben deviens indépendant, termine ton mandat de façon indépendante
et
ensuite
de
ça, présente-toi dans un comté où les citoyens vont t'élire sous une bannière. Ça, c'était mon point, puis je le change pas.
Elle était indépendante pendant 6 mois, puis l'autre chose, je pense qu'elle aurait pu, parce que le déclenchement d'une partielle, c'est 6 mois, hein? Je pense
qu'elle C'est pour ça que tu sais le timing fait en sorte qu'elle aurait pu attendre et se présenter à l'automne pour le Parti conservateur. Tu sais, mais je comprends que pour le PCQ, c'est une excellente nouvelle.
Ben oui, mais puis l'autre chose, elle part pas du jour au lendemain d'un parti à l'autre.
Non, je comprends.
C'est ce que tu as vu au fédéral.
Ça, c'est différent un peu.
T'as un conservateur à minuit moins une. Il est conservateur. À minuit et une, le lendemain matin.
Il est l'autre bord. Au deuxième party.
Il va partir.
Je comprends.
De Noël des conservateurs, puis le lendemain, il est au parti des de Noël des libéraux.
Je comprends, Pierre, c'est pas la même situation, mais je pense quand même que les citoyens ont le droit de décider si le député pour qui ils ont voté s'est présenté pour la CAQ. Là.
Mais moi, je regardais sur X, il y avait des broyeurs. Là.
Ouais.
Les broyeurs, là, c'est tous des faux comptes associés à d'autres partis politiques. Bon. D'après moi, la CAQ, puis
Parti québécois... Moi, je suis pas un faux compte, je te dis qu'elle aurait pu attendre.
Il y a des faux comptes, des faux cubes, des faux comptes.
88-670-9098.
On revient après la pause.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas longtemps.
Dans le mid, Radio X.